Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures d'histoire très différentes de vos souvenirs du lycée, ici de l'histoire feel good, comme dirait Bernard Pivot, avec le plus feel good des animateurs, acteurs, historiens, percepteurs des impôts liés au patrimoine. Bonjour Stéphane Bern, vous êtes tout ça à la fois. Hein.
Tout est faux. Bonjour Mathieu, c'est vrai que chaque après-midi, en revanche, on vous raconte l'histoire en essayant de ne pas se la raconter, autour de 3 personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir été fauché en plein vol.
Oui Stéphane, aujourd'hui nous allons prendre de la hauteur avant de nous cracher comme eux. Comme votre premier personnage, le pionnier de l'aviation Charles Nungesser, qui resta confiant jusqu'au bout, jusqu'à ce 8 mai 1927 où il disparut au-dessus de l'Atlantique Nord.
Ça va ?
Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres et je n'aurai pas assez de temps pour sortir les trains d'atterrissage.
Mais il y a quoi qui va ?
Ce qui va, c'est que je suis là.
C'est rassurant.
Après le destin tragique de Charles Nungesser, je vous raconterai celui non moins tragique du boxeur de légende Marcel Cerdan.
Il avait une voix aiguë, Marcel.
Non, c'est dit.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à Marcel ? J'ai l'impression que ça s'est mal fini.
Disparu lui aussi, eh oui. Au-dessus de l'Atlantique Nord, alors qu'il partait rejoindre sa dulcinée Edith Piaf, ouais. Que vous avez reconnue.
Je l'ai reconnue,
à New York. Mais vous avez interrompu, et ça vous gêne pas d'interrompre Edith Piaf, vous ?
Vous savez, moi je ne respecte rien. Il faut voir le bon côté des choses aussi. Hein. Sans cet accident, Marion Cotillard aurait jamais décroché l'Oscar. On peut se consoler comme ça aussi, Stéphane.
Votre absence de cœur ne vous empêchera pas, Mathieu, de vous pencher sur notre troisième personnage du jour, fauché en plein vol.
Oui, plus qu'un personnage, Stéphane, un groupe mythique aussi, le groupe Ozone. Des Moldaves qui chantent en roumain, le plus beau cadeau que ce pays nous ait fait depuis Ceausescu. 3 pseudo-playboys gesticulant sur l'aile d'un avion, le clip avait fait le tour du monde. Plus personne n'a heureusement entendu parler d'eux depuis 2005. En 2019, ils avaient prévu un comeback. Heureusement, le coronavirus est intervenu à temps. Mais qui étaient ces gens ? Élément de réponse vers 17h20.
Je me permets juste d'insister, tous les Moldaves parlent roumain.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, vous avez raison de le souligner.
C'est la même langue.
C'est la même langue.
Oui, c'est leur langue.
Vous savez dire bonjour en moldave ?
Non.
Enfin, en roumain.
Alors, ils sont là avec nous, comme chaque jour. Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde.
Oui, bonjour messieurs. Et aujourd'hui, eh bien, j'évoquerai pour vous une héroïne de l'ombre, une certaine Rose Vallant, qui était attachée de conservation au musée du Jeu de Paume durant l'occupation allemande et qui sauva de la disparition des milliers d'œuvres d'art captées dans les musées français. Voyez, Rose Vallant, celle qui faucha en plein vol Hitler et Göring.
Ah oui.
Vous allez voir le personnage.
Bah, on a hâte. Et puis avec nous, David Castello-Lopez, qui revient aux origines, mais je crois que ce sont les siennes, là.
Oui, ça fait plaisir, là, hein, David.
Ça va être un petit peu étonnant, mais je vais parler des origines de l'hymne portugais.
Ah,
et je vais
magnifique.
D'abord le faire écouter, bien sûr, puisque personne ne le connaît, je pense, à cette table, sauf peut-être Stéphane.
Ah bah, oui, parce qu'il y a eu quand même des rencontres France-Portugal en du monde, je me souviens de l'hymne portugais.
Et il est une histoire touchante pour moi, et je vous en ferai pas.
Non, mais c'est gentil. Puis alors, on va rester dans le sud avec Olivier Pouls.
Ah. Oui, bah moi, je vous amènerai un petit rayon de soleil à table. On va parler de la tapenade. Mmh. Et alors, c'est assez rare, mais on sait exactement à qui on l'attribue. Il y a un nom, il y a un chef, il y a une
date. Tapenade ?
Ah oui ?
Non, pas Monsieur Tapenade, vous verrez, mais...
Ça voilà. Sonne bien dans le sud,
Monsieur Tapenade. Bonjour, Monsieur Tapenade.
Monsieur Tapenade.
Vous pouvez nous préparer votre spécialité.
Vous êtes cousin avec Monsieur Enchoyade.
Oh, je sens qu'on va rire. Oh, je sens que ça va être truculent aujourd'hui.
Je me ris dessus, comme dirait.
quand on vous imite. Enfin, Stéphane, vous aussi, à votre manière, vous avez été quelque part fauché en plein vol, alors que tout le monde pensait que vous y connaissiez en histoire. Au moins un peu, j'ai inventé le quiz Burn to be Alive. Et depuis, chaque jour, nos auditeurs découvrent le vrai visage de votre soi-disant érudition et les masques tombent avec autant de fracas que Nungesser dans l'Atlantique. Mais avant le crash, le récit. Découvrons donc l'histoire qui finit mal, on peut déjà l'annoncer, de ce pionnier français de l'aviation. Stéphane Bern nous raconte Charles Nungesser.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes le 9 mai 1927 à New York. Sur les quais qui font face à la Statue de la Liberté, une foule scrute le ciel, impatiente de voir se poser un drôle d'oiseau. L'oiseau blanc, précisément. L'avion à bord duquel Charles Nungesser et François Colly vont arriver dans quelques heures. Ils ont quitté Paris la veille pour s'être traversés par le ciel de l'Atlantique. Une première mondiale. Au même moment, En France, la nouvelle tombe. C'est un succès. Ils ont réussi. Après les premiers hurrahs, un doute s'installe, de la précipitation peut-être. Une erreur ? Des heures et des jours d'attente suivent, toujours pas de nouvelles. Il faut alors se rendre à l'évidence, l'oiseau blanc n'est jamais arrivé. L'oiseau blanc a disparu. Avec lui, Ningesser et Colly, dont les patronymes resteront à tout jamais, associés dans l'histoire et dans le mystère de leur disparition. Mais qui est Charles Ningesser ? Cette légende de l'aviation fauchée en plein vol, dont la vie est une authentique et constante aventure. Charles, né en 1892, est un jeune homme vif et impétueux. Ses camarades de lycée notent son aisance dans toutes les activités physiques. Adolescent, il parvient un jour à maîtriser un cheval échappé à son propriétaire dans les rues de Valenciennes. À 15 ans, diplômé de mécanique, l'aviation, qui n'en est alors qu'à ses premiers balbutiements, le fait déjà rêver. Ningesser fonde une société de fabrication d'aéronefs avec un associé allemand. Mais la tentative tourne court. L'associé est un escroc. Et Charles, un piètre homme d'affaires. Est-ce l'accumulation de dettes mêlée à une vie de flambeur dans les casinos dont sa minorité lui interdit théoriquement l'accès ? Est-ce l'envie de fuite ou une soif d'ailleurs, certainement un peu des deux ? Toujours est-il qu'en juillet 1912, Charles Ningesser embarque pour l'Amérique du Sud sur les traces d'un oncle dont il a découvert l'existence au verso d'une carte postale. Il n'y a rien de tel que les voyages pour un jeune homme. « Ça vous dégourdit », écrit-il à sa mère. C'est en bateau qu'il effectuera son premier voyage transatlantique. Il s'installe en Argentine pendant 2 ans. Charles mène sa vie entre l'estancia familial et la grande ville de Tucumán. C'est là-bas qu'il participe en tant que passager à ses premiers vols aux côtés de Castébert, un pionnier local de l'aviation. Charles continue de faire preuve de son esprit fonceur et provocateur. En témoigne ce jour où il assiste à un combat de boxe entre un Argentin et un Français. Après avoir mis son adversaire au tapis, l'Argentin se moque. Charles Valeureux tombe la chemise et s'engage pour l'honneur du pays. Et il sera victorieux.
Mais il était fort en boxe.
Bah écoutez,
c'est
faut
fou
croire,
contre un boxeur
oui.
professionnel, enfin en tout cas.
Il est chatouilleux sur le patriotisme.
C'est magnifique.
En 1914, quand arrive l'âge du service militaire, il ne se dérobe pas à son destin et retourne au pays. Dès le début de la guerre, Ningesser rentre dans la légende après une rocambolesque aventure. Tombé dans une escarmouche, il parvient à mettre à l'abri ses camarades et officiers, puis faisant face à l'ennemi, il s'empare d'une voiture de la célèbre marque Morse en abattant ceux qui se trouvent à l'intérieur, les 4 occupants allemands en l'occurrence. Il traverse la ligne de front sous le feu adverse et parvient au camp français où il rapporte de précieux documents trouvés dans l'automobile. Son général le promeut brigadier et lui offre le véhicule criblé de balles. De là lui échoit aussi son surnom, le hussard de la Morse. En référence à la fois à la marque de l'auto et puis au nom de son régiment, les hussards de la mort. Après cet exploit, Charles Ningesser passe enfin pilote dans l'aviation. Son rêve. Il devient chasseur. La chasse, c'est l'art chevaleresque dans les airs. Domptant sa monture, Charles traque les aéronefs ennemis. Il les abat aussi. C'est à cette époque qu'il fait peindre sur son avion l'insigne, son fétiche comme il l'appelle, qui le suivra toute sa vie. Une tête de mort, 2 tibias croisés surmontés d'un cercueil flanqué de 2 chandeliers. Il monte en grade et acquiert autant de succès que de blessures. Charles fait désormais partie de la fameuse liste des as de l'aviation. Les as sont reconnus et honorés par l'armée et la France entière. On suit leurs exploits dans les journaux. Il est célèbre. Mais la guerre terminée, comment continuerait à voler ? Il fonde une école d'aviation à Orly et crée des spectacles aériens très en vogue à cette époque. Mais Ningesser a toujours cette envie d'ailleurs. Le pilote regarde à nouveau vers l'Amérique et c'est aux États-Unis qu'il poursuit ses démonstrations aériennes. Le succès est au rendez-vous, à tel point qu'en 1925, il devient acteur, héros d'un film muet à cette époque, The Sky Rider, le vainqueur du ciel, dans lequel il joue son propre rôle. Mais son véritable rêve américain n'est pas celui du cinéma, Mathieu, non. Ningesser ambitionne de traverser en avion la grande mare aux harengs, comme disent les aviateurs. Entendez, Mathieu, l'océan Atlantique, parce qu'il y a plein de harengs à l'intérieur. Bon. Cette prouesse n'a été que partiellement réalisée par d'autres auparavant, et jamais entre Paris et New York. Et pour ce qui est du New York-Paris, un Américain, un certain Charles Lindbergh, est en préparation. Il faut donc faire vite. Ningesser choisit l'appareil idéal. Il le nomme l'oiseau blanc, du nom d'un chef indien rencontré aux Amériques. Pour cette 40aine d'heures de vol, il fera équipe avec François Colly, pilote aguerri mais aussi marin, car il faut être navigateur pour se repérer au-dessus du grand océan. Tôt, le matin du 8 mai 1927, on se presse aux abords de la piste du Bourget. « Si les Américains nous demandent notre passeport, je fais demi-tour », lance-t-il fièrement. L'oiseau blanc démarre, l'appareil décolle, retombe mollement, tout le monde retient son souffle. Vont-ils y arriver ? Il s'envole. Mais à bord, Charles Ningesser ne sait pas encore qu'il n'atteindra jamais cette Amérique tant désirée. Tout commence bien pourtant. L'avion piloté par Ningesser et Colli décolle encadré par une petite escadrille. Les opérateurs de caméra sont là aussi pour immortaliser l'instant. Ils prennent les derniers clichés connus de l'appareil qui s'élance dans le ciel, plein ouest. Jusqu'à Étretat et l'arrivée sur la Manche, tout semble bien se dérouler. Un pêcheur dira plus tard avoir vu passer l'oiseau blanc, un peu lourdeau, se disant qu'il n'irait pas bien loin. À partir de là, les témoignages cohérents se succèdent. L'avion est aperçu au milieu de la Manche, au-dessus de la pointe sud-ouest de l'Angleterre, puis de l'Irlande. Exactement le trajet tel qu'il était prévu. C'est pourtant ici que l'on bascule dans le mystère qui ne sera probablement jamais résolu. Des témoins affirment avoir vu un avion blanc au-dessus des côtes de Terre-Neuve au Canada. Ningesser et Colli auraient donc, dans un sens, réussi. Ces témoins sont a priori dignes de confiance, mais aucune preuve ne pourra être apportée jamais. Malgré les enquêtes très officielles ou celles d'amateurs passionnés, aucun reste ou indice ne sera identifié. Des messages furent bien trouvés, comme celui-ci dans une bouteille en 1932. « 14 mai 28, sommes tombés dans la forêt du Nord, sommes sans secours, Ningesser et Colli », quelques mots glaçants, mais manifestement un faux, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Une théorie soutient même que l'oiseau blanc aurait été abattu sur les côtes de Terre-Neuve par des contrebandiers craignant avoir affaire à des gardes-côtes. En cette période trouble de la prohibition aux États-Unis, l'île est une plaque tournante du trafic d'alcool. Peut-être aussi ont-ils chuté au milieu de l'océan avant d'avoir atteint le continent américain. Panne d'essence, mauvais temps. A priori, nous ne le saurons jamais. De Charles Ningesser resteront des images, un mythe, des exploits et des médailles. Et un destin sans pareil, celui d'un homme qui aura vécu sa vie comme s'il savait qu'elle serait courte. Ironie de l'histoire, une dizaine de jours plus tard, le 21 mai 1927, Charles Lindbergh entrera dans la légende après avoir réalisé l'exploit de la première traversée de l'Atlantique en avion de New York à Paris. Il atterrit sur la piste de l'aéroport du Bourget, celle-là même qu'avait quitté Ningesser et Colli quelques jours plus tôt.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Charles Ningesser, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Patrick de Gmelin. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour Patrick de Gmelin, vous êtes historien militaire et vous venez tout juste de publier une riche et passionnante biographie de ce héros, Charles Ningesser, de l'As de la Grande Guerre aux disparus de l'Atlantique, aux éditions du Rocher. Ningesser est connu pour avoir manqué sa traversée de l'Atlantique en avion et Charles Lindbergh, lui, pour l'avoir réussi. Vous avez choisi de vous intéresser au premier, pourquoi ?
D'abord, j'avais rencontré Ningesser, si je puis dire, à de nombreuses reprises au cours de ma carrière d'historien. Je l'ai rencontré aussi dans l'armée, puisque une promotion de l'école des officiers de Couette-Quidan avait choisi le nom de Ningesser. Donc à chaque fois, on me demandait d'intervenir. Donc à force d'intervenir sur Ningesser, je me suis dit, pourquoi pas ? Et bizarrement, il n'y avait pas de biographie de lui depuis très, très longtemps. Et je me suis aperçu, en allant consulter des archives, qu'on n'avait jamais demandé son dossier à Vincennes. Donc, d'une certaine manière, je faisais œuvre de novation en m'intéressant à lui. Et puis, le personnage était intéressant, un peu atypique même dans son époque. Voilà pourquoi je me suis intéressé à lui.
Est-ce que c'était vraiment, comme l'a dit Stéphane, un as du pilotage ? C'était vraiment un surdoué de la voltige ou on en a un petit peu rajouté ?
Je pense qu'il était plus doué que vous et moi réunis pour la voltige. Et même que Stéphane.
Il
est pas mal, Stéphane, dans le genre.
Mais il pilote lui-même son Falcon, hein, on sait peu. Il dit souvent, on pilote, non, c'est bon, je vais le faire.
Donc, il pilotait bien. Mais ce qui était quand même le cas de la plupart des pilotes de cette époque. Il avait ses techniques à lui, il avait l'habitude d'essayer d'abattre ses adversaires. Il y avait une expression quand il voyait le blanc des yeux de l'adversaire. Oui. Essayez de le faire, ne serait-ce qu'avec vos invités, Mathieu.
Oui, c'est dur.
Ne m'abattez pas tout de suite.
Non, vous inquiétez pas.
Mais si jamais vous voyez le blanc de mes yeux, vous tirez. Lui, c'est ce qu'il faisait.
Oui, mais Patrick, on sent qu'il... Il était flambeur, provocateur.
Ah oui, tout.
Est-ce qu'au fond, c'était pas un il était trop hableur et pas assez préparé? Pardon de dire les choses comme ça, pour la traversée.
Pour la traversée. Je ne pense pas, parce que la traversée, c'est un rêve qu'il a habité très longtemps. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ça n'avait pas été fait. C'est vrai qu'il y avait un peu une concurrence avec Lindbergh, parce qu'il savait qu'on préparait de l'autre côté, dans l'autre sens. Et lui a choisi en plus le sens Europe. États-Unis,
qui est plus dur
oui, parce que les vents soufflent dans l'autre sens.
Bien sûr.
Et je crois qu'il a vraiment bien préparé sa traversée. Il ne pouvait pas se permettre, d'autant plus qu'il avait un camarade, François Colly, dont on ne parle jamais.
Oui. Oui. Colly, on en parle la rue, parce qu'on pense qu'ils sont Ningesser et Colly.
Oui,
c'est toujours la rue Ningesser et Colly.
C'est vrai, c'est
oui, mais d'ailleurs, c'est un mot qui a été inventé. Oui. Ningesser et Colly, un seul mot.
C'est vrai.
Ningesser tout seul. Colly, on le transporte, si j'ose m'exprimer ainsi.
Dans le viande.
Mais on ne parle jamais de Colly, qui a été lui aussi un grand pilote.
Bien sûr.
Bon, qui s'est signalé parce qu'il avait un monocle noir. C'est une manière comme une autre de signaler.
Ouais.
Bon, mais lui était le navigateur, il savait où il allait, et Ningesser fonçait droit devant, c'était un excellent pilote, etc.
Est-ce que Lindbergh, comme il a atterri au Bourget, ce qui est quand même une cruelle ironie du destin,
oui.
Là où avait décollé notre ami Ningesser, est-ce qu'il a rendu hommage à Ningesser?
Ah mais tout de suite.
Ah oui.
Il arrive, il met le pied par terre, et il dit, je veux voir la mère de Ningesser.
Ah,
et on l'emmène tout de suite voir Maman.
Ah,
et Maman, elle a joué quand même un sacré rôle. Hein. Ça devait être, de vous à moi, pour ceux qui sont occupés de Ningesser après, excusez-moi, je vais employer un mot très laid, ça devait être une emmerdeuse de première. J'ai retrouvé des mots, elle écrivait à tout le monde, elle intervenait devant tout le monde, elle voulait mettre en avant son fils. Et je pense que Mathieu, si vous aviez eu Madame Ningesser en face de vous, vous auriez dit à Stéphane, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser?
Patrick, vous mentionnez que Ningesser et Colly ont refusé, prétextant qu'il était trop lourd, de mettre un poste TSF dans l'avion.
Oui.
Un outil qui aurait pu leur permettre d'être repéré et de recevoir éventuellement des secours. Est-ce que des négligences, des erreurs ont été commises, comme celle-ci?
Alors, à l'époque, pour eux, c'était pas une erreur. Ils voulaient alléger au maximum l'avion pour aller le plus loin possible. C'est vrai que c'était prendre un risque, mais Ningesser est l'homme des risques. Et il s'est dit, puis alors il avait confiance. Il imaginait qu'ils allaient pouvoir traverser sans problème. C'est vrai que si on avait eu la radio, ça aurait certainement aidé beaucoup. Mais on supprime ce qui est trop lourd. C'est tout juste s'il a emporté une aile de poulet, une banane, on n'est pas tout à fait d'accord sur le menu, mais non, c'est vrai, on en discute encore, c'est un gros problème pour les historiens. Et moi qui ne suis pas mince, Stéphane, je vous défends.
Je n'ai rien dit.
Non, mais votre œil.
Non.
Votre œil,
vous trahissez.
Bon.
Disons qu'on se sent mince à côté de vous. Cela dit, Patrick de Gmelin, vous écrivez dans votre livre, depuis ce 8 mai 1827, on ne sait plus rien. On suppute, on calcule, on imagine, on croit savoir, mais on ne sait rien. Est-ce que vous, en travaillant sur le sujet, vous avez découvert des choses qu'on ne savait pas sur la fin tragique de Ningesser?
Mon cher Stéphane, je vais vous décevoir profondément, d'ailleurs, comme d'habitude.
Non.
On ne sait rien. Le mystère reste épais.
On ne sait pas à quel endroit du tout, dans quelle zone ils sont tombés.
Non, alors, la seule chose qui pourrait arriver, c'est comme pour Saint-Ex. Saint-Ex, on a retrouvé sa gourmette, pouf, c'est le cas de le dire, dans la Méditerranée. Ça a aidé. On ne peut rien retrouver. Et alors, la seule chose qui aurait pu survivre, c'est le moteur. Parce que le moteur, c'est métallique, c'est gros. Simplement, la mer fait bouger les choses, y compris les moteurs. Et puis, il y a des fosses maritimes dans lesquelles aurait pu tomber le moteur. Donc, il faudrait absolument un hasard extraordinaire ou quelque chose commandité par une grosse société qui voudrait faire de la publicité. Je pense qu'on ne retrouvera jamais rien.
L'avion.
Et alors, les cadavres, encore moins.
Non, bien sûr,
on va essayer de les conserver, mais c'est un peu difficile.
Ils ont été mangés par les poissons.
Oui, qui ont grossi d'ailleurs. Mais je pense que c'est un des mystères historiques qui restera au moins, Stéphane et moi, jusqu'à notre disparition.
Oui, mais c'est peut-être ce qui fait la légende de Ningesser aussi, et de Colly.
Vous avez raison, Stéphane, dans la mesure où, s'il n'y avait pas eu la traversée de l'Atlantique, Ningesser serait resté un pilote hardi, un as, le troisième de la liste des as français, mais il n'aurait pas marqué par d'autres choses. Il était un très mauvais gestionnaire, son école d'Orly, plouf, est tombée, Vous avez remarqué, vous dites toujours, plus très souvent.
Toujours un lien avec
Il y a toujours un lien. Mais sinon, il n'aurait pas marqué particulièrement. Donc, cette aventure extraordinaire, non terminée, qui ne se symbolise par plus rien, on n'a même pas un endroit où jeter une couronne de fleurs.
Hein? Mais quand même, il y a une chose. Il est une star, il y a des noms de rue, on l'a dit, des BD, des timbres, etc. Ce qui est fascinant, c'est le premier qui a suscité autant de fake news. C'est-à-dire
que... Oui, c'est vrai.
Oui, c'est quoi ces messages qu'on a retrouvés?
Dès son arrivée.
Voilà.
Alors, le coup du message dans la bouteille, j'y crois assez peu. Bon, ça a existé. Ce que je trouve le plus extraordinaire comme fake news très officiel, c'est l'annonce par tous les journaux de l'arrivée des deux pilotes. Mais c'est une fake news fantastique parce que sont quand même des titres énormes et qui sont repris par toute la presse. Après ça, les journalistes sont quand même tout petit peu embêtés. Ça fait désordre.
Justement, alors, il y a un autre élément dans votre livre.
Oui.
Et je sais que ça vous a beaucoup touché. C'était un amateur de femmes.
Oh là là. Un galopeur de premier ordre. Et alors, bizarrement, il n'y a pas de liste. Nous qui aimons beaucoup les listes.
Oui.
Il n'y a pas de liste. Il était beau gosse. Oui. Blond. Il avait une petite cicatrice qui est toujours extrêmement... C'est émouvant pour une épouse. Il galopait après les femmes, mais on ne sait pas trop qui. Il a été d'une discrétion exemplaire de ce côté-là.
Il n'a jamais été marié.
Ah, si ! Il s'est marié incontestablement avec une Américaine riche. Alors, on va dire, tout ça a été combiné. Je ne crois pas. Elle a été amoureuse de ce garçon. Lui, il l'a mis, avant de la mettre dans son lit, il l'a mis dans son avion. Il y a des tas de photos où on les montre. Et puis, elle était très américaine, riche, donc il en a un peu profité, mais ce n'était pas un mariage d'argent au sens propre du terme. Et puis, il y a eu un léger problème, c'est qu'elle était américaine et voulait vivre dans son milieu aux États-Unis, et lui, il était français, il voulait vivre en France, faire des voyages, mais vivre en France. Et au bout d'un moment, elle lui a dit, c'est moi, aux États-Unis, ou rien du tout. Et il a décidé rien du tout.
Donc il a pris l'avion et il est allé.
Il est reparti. galoper ailleurs.
Alors, il est allé galoper ailleurs.
Stéphane Lally.
Il galopait beaucoup d'ailleurs, c'est un excellent cavalier.
Ah aussi.
Oui.
Timbre, film, bande dessinée, nom de rue ou chanson comme celle-ci. Une chanson que Stéphane a dû aimer dans sa jeunesse, L'oiseau blanc, chanté par Père Chicot en 1927.
Ah bah
Stéphane.
Oui.
L'oiseau blanc, avant nous aurions ses ailes, qui disait dans l'autre monde, et le courage en clôt dans tes prunelles.
Ah, ça n'a pas pris une ride, hein?
Non, mais on reconnaît on connaît bien la voix de Stéphane.
Bah oui,
c'est vous qui chantez.
C'est ses débuts.
Mais c'est vrai que. Est-ce qu'il y a assez d'hommages rendus à Ningesser?
Vous voulez plus de rue pour Ningesser, j'ai l'impression, Stéphane.
Moi, je sais pas. Je trouve ce que disait Patrick de Guémenine tout à l'heure, c'est assez injuste. On dit toujours, la rue Ningesser et Colli, le boulevard Ningesser. Avouez que c'est assez injuste le sort qui est réservé post-mortem.
On aurait eu plus de rues. J'étais en train d'écrire un article sur le maréchal Leclerc et le serment de Couffrat. Et je me suis dit, Leclerc, il y a des rues partout.
Ah oui.
Ningesser, quasiment rien. Il y en a quelques-unes, bien sûr, mais pas beaucoup.
En tout cas, votre biographie est passionnante.
Ah, oui.
Pour tout savoir sur ce héros méconnu, injustement d'ailleurs, je vous invite à lire Charles Ningesser de L'As de la Grande Guerre aux Disparus de l'Atlantique, qui vient tout juste de paraître, il est tout chaud, aux éditions du Rocher.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qu'elle retrouve dans ses tiroirs, mais c'est jamais par hasard. Clémentine Portier-Kaltenbach. Et cet après-midi, Clémentine, vous nous racontez l'incroyable histoire d'une résistante qui a réussi à sauver des œuvres d'art volées par les nazis.
Eh oui, tout à fait. Et alors déjà, voyez-vous, Stéphane et Mathieu, à quoi ressemble cette femme physiquement, Rose Vallant?
Bah oui, là, je vois votre photo, oui.
Oui, ah bah, non, là, non, dites donc, je suis pas aussi haut. Austère, hein. Elle a les cheveux bruns très, très tirés en arrière, extrêmement droite comme la justice. Mmh. Alors, un regard franc derrière des petites lunettes cerclées, ça, ça serait tout à fait moi, je veux
petit
bien.
Petit côté Josiane Balasco,
mais
peu
on dirait
sérieuse.
un homme.
Ouais,
en fait.
Elle a quelque chose d'assez androgyne en effet, hein. Et toujours en noir, une grande jupe noire qui tombe sur ses chevilles. Donc, c'est l'image qui se dégage d'elle, c'est plutôt l'austérité, quelqu'un de pas commode et de discret. secret. Et en tout cas, elle va avoir le privilège d'être la seule française à conserver son poste dans le musée du jeu de paume, parce que c'est ce musée du jeu de paume à Paris, qui pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens, se trouve dans les Tuileries, près de la place de la Concorde. C'est ce musée, le jeu de paume, qui dès juin 40 devient la plaque tournante de la gigantesque entreprise de spoliation d'œuvres d'art. Pourquoi ? Parce que les dignitaires du Troisième Reich ont pour ambition de rassembler sur le sol allemand toutes les œuvres d'art et les objets culturels qui témoignent de ce que l'on considère comme le génie germanique depuis le XVe siècle. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le projet d'Hitler qui, vous le savez, veut créer dans sa ville natale de Linz un musée dont il exige qu'il dépasse le Louvre en taille pour la richesse des collections et pour les bâtiments eux-mêmes. Donc, il y a un énorme projet qui se joue à ce moment-là. Et voilà pourquoi les forces occupantes rassemblent et expédient vers l'Allemagne des milliers d'œuvres confisquées aux familles juives et dans les musées. Et celui qui, pour le coup, a vraiment été fauché en plein vol par Rose Valland, c'est Göring, parce que c'est lui qui supervise l'opération. Et figurez-vous qu'il viendra 21 fois au jeu de paume. Il se sert sans vergogne pour constituer sa collection personnelle. Et il va y avoir plus de 60 000 œuvres qui vont quitter la France depuis le jeu de paume, dont certaines sont stockées dans des châteaux, dans des mines de sel, un petit peu partout, en attendant que la guerre se calme. Et donc Rose Valland, pour empêcher que ce patrimoine ne disparaisse à tout jamais, elle entreprend au péril de sa vie de prendre en douce, de prendre secrètement des notes sur toutes les œuvres spoliées et sur leur destination en Allemagne. Patiemment, discrètement, écoutant aux portes, fouillant les poubelles où elle récupère les papiers carbone qu'elle déchiffre, elle consigne tous les détails qu'elle juge utiles, conversations, bruit de couloir, circulaires, incidents, actes de vandalisme, et elle va fournir des informations essentielles à la résistance, notamment sur les trains qui transportent les œuvres en Allemagne, afin que ces trains-là ne soient pas bombardés par les alliés, ne soient pas dynamités par les résistants. Et c'est elle qui va, à l'automne 44, communiquer aux alliés les noms des dépôts allemands et autrichiens pour éviter les bombardements et faciliter la récupération des œuvres. Alors, bon, on a tous plus ou moins en tête, parce que c'est un film assez récent, vous savez, ce film Monument Men, elle est devenue capitaine Beaux-Arts dans l'armée française, Rose, hein, et elle a fait partie de ces fameux Monument Men américains qui sont allés récupérer ces œuvres d'art disparues. Et ces œuvres d'art disparues, on les appelle les MNR. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Mathieu, Stéphane ?
Musée Nationaux Réunis.
Récupération, musée nationaux récupération, et bon, grâce à ces Monument Men, la plupart des œuvres spoliées va être récupérées après-guerre, mais il reste encore de nos jours 2143 MNR qui attendent
toujours...
Dans
les réserves du Louvre, notamment.
Oui, c'est ça, dans des petits musées. Moi, j'ai vu des œuvres de la Renaissance italienne absolument sublimes au musée de Moulins, et qui sont des MNR, et dont on ignore encore...
Mais 80... il les présente maintenant. La nouveauté, Clémentine, c'est qu'on les présente comme telle, en disant voilà, ce sont des œuvres spoliées par les nazis en attente d'être récupérées.
Oui, bien sûr.
Alors, le problème pour les récupérer, évidemment, c'est qu'il faut des actes de propriété et que les familles ont été déportées ou les familles ont été, quand c'est des familles juives qui ont été exterminées, c'est difficile et ou quand les familles sont nombreuses, c'est difficile de savoir à qui on remet l'œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle c'est compliqué de les rendre.
Oui, les musées n'ont pas toujours été parfaitement clairs, limpides et corrects sur ces questions-là. En tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est le film de John Frankenheimer qui était sorti en 64, Le Train. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'étais née, mais j'étais peut-être pas en âge de le voir. Mais par contre, je l'ai vu plus tard. C'est un très beau film où Jeanne, dans lequel Rose Valland est interprétée par Jeanne Moreau, et c'est Burt Lancaster qui incarne un cheminot résistant, un certain Labiche, qui est chargé d'empêcher à tout prix que le train d'œuvres d'art ne parvienne en Allemagne. Rose Valland, elle a pris sa retraite en 67 et elle a coulé des jours paisibles avec sa compagne. Elle aimait une universitaire britannique qui s'appelait Joyce Hare et qui, elle, s'était engagée comme interprète auprès des Américains pendant la guerre. Et voilà ces deux femmes qui ont vécu paisiblement et très discrètement Paris 5e, près des arènes de Luther, comtesse. Et les deux ont été inhumés dans le petit cimetière de Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre en Isère. C'est la ville natale de Rose Vallon. Là-bas, il y a une place et un collège qui portent son nom. Mais surtout, en 2006, le ministère de la Culture a inauguré une plaque commémorative qui a été apposée sur la façade du Jeu de Paume en hommage à cette héroïne de l'ombre qui fut pour son pays, écoutez, un exemple et un honneur.
Bah, écoutez, merci Clémentine, parce que je ne connaissais pas Rose Vallon et vous nous avez, je sais pas, vous Mathieu.
Pas du tout, moi je connaissais Jacques Jaujard qui avait sauvé les tableaux du Louvre.
Bien sûr, il est un peu plus connu. Il est allé mettre à Chenonceau et à Chambord et à l'abri. Mais on ne connaît pas tellement l'histoire de Rose Vallon. Merci de l'avoir exhumé de vos tiroirs. Merci Clémentine.
Merci beaucoup Clémentine, vous restez avec nous. Vous savez, quand elle a signé pour travailler avec Stéphane Bern en juillet dernier, Clémentine pensait avoir affaire à un journaliste authentiquement féru d'histoire. 112 quiz plus tard, elle a dû se rendre à l'évidence.
Non. Ah, t'es bidon comme garçon, hein.
Pour une fois de grâce, faites-la mentir, Stéphane. À tout de suite pour Bern Tubielage.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Que restera-t-il de Stéphane Bern une fois que son âme aura rejoint le Seigneur et ses abatis, la crypte de l'abbaye de Thiron-Gardé ? Une stèle à la mémoire de cet ardent défenseur du patrimoine, peut-être. En tout cas, dans son testament, il a été très clair. Ordre a été donné d'effacer toute trace des archives de l'INA de ce qu'il considère comme une tâche infamante sur son glorieux CV. Le quiz de Culture G qu'il oppose chaque jour à Clémentine Portier-Kaltenbach. Avant qu'il soit détruit, jouons à Bern Tubielage. Stéphane, première question, elle est toujours pour vous. Durant la Première Guerre mondiale, il y a un épisode que tous les collégiens apprennent, celui des taxis de la Marne. Oui. Il n'y avait plus assez de véhicules pour amener les fantassins sur la ligne de front. 5000 d'entre eux ont fait le voyage par des taxis réquisitionnés. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les compteurs tournaient et qu'il a fallu payer. Vrai ou faux ?
Alors ça, je crois que c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se pose
les taxis, on fait payer.
Bien sûr, c'est ce qui est devenu la G7 les compteurs ont tourné. Oui.
C'est ce qui est devenu la G7.
Oui.
Les taxis G7.
Oui, c'est devenu.
C'est André Rousselet qui avait racheté la G7.
Oui. Mais bien sûr, les compteurs ont tourné, la facture a été acquittée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dans l'idée que c'était quelque chose comme 23 000 francs ou je ne sais pas quoi.
Même le prix.
Je sais pas, c'est ce prix me dit quelque chose, mais oui, en tout cas, bien sûr, la
facture. Oui, en tout cas, c'est quand t'es retourné.
Donc c'est vrai.
Je crois.
Vous avez gagné.
Bien joué, Stéphane. 70 000 francs, soit l'équivalent de 233 000 euros. Bah, il y avait un.
C'est ça.
233 000 euros. C'est ça, ce chiffre. Hein,
ouais, 23... c'est ça, c'était 230.
233 000 euros aujourd'hui. La somme a été payée par le ministère de la guerre. Les chauffeurs ont touché 27% de la somme, le reste allant aux compagnies de taxi. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Avant de s'appeler la Patrouille de France, c'était la Patrouille de Corbeil-Essonne. Vrai ou faux ?
La Patrouille de Corbeil-Essonne ? Et pourquoi ? Il n'y a pas d'aérodrome, d'aéroport, de ni quoi que ce soit. Pourquoi ? Et puis en plus, c'était même pas tellement une vieille école de pilotage, puisque c'était dans la Somme, les vieilles écoles de pilotage. Non, écoutez, ça ne me dit rien. Mon intuition, c'est de répondre non à cette question.
Vous avez
perdu, je suppose, mais...
Gagné !
Ah bon ?
Non. Gagné. Mais il y avait un petit piège, parce qu'effectivement, la Patrouille de France a eu un autre nom avant de s'appeler la Patrouille de France. C'était la Patrouille d'Étampes. Sa base était à l'aérodrome d'Étampes-Mont-Désir. En mai 53, un commentateur est tellement enthousiaste qu'il la présente comme la Patrouille de France. En septembre, l'état-major de l'armée de l'air garde officiellement le nom de Patrouille de France.
Elle est trop forte. Hein.
Elle est vraiment très forte, parce que même quand elle ne sait pas, elle a la déduction. Intuition. Elle a vu qu'il n'y avait pas du tout de base aérienne à Corbeil-Essonne.
Corbeil-Essonne a donné... Vous savez, Corbeil, c'est ce qui a donné les corbillards.
Mais ça, on l'a vu dans l'émission, Stéphane.
Ah oui ?
Vous faites genre, vous me l'apprenez, alors qu'on l'a appris ensemble, Stéphane. Il faut dissocier ce qu'on a appris ensemble de ce, que vous avez appris indépendamment de moi.
Vous ne vous en souvenez jamais.
Ça m'arrive d'avoir des petites absences, Stéphane. Oui. Ça s'appelle l'Alzheimer précoce.
Non,
ne vous moquez pas, Stéphane.
Des siestes.
Des micro-siestes. Il paraît que c'est bon pour la santé.
Oui, très bon. Oui.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Avant 1956, on le sait, l'alcool était fréquemment distribué dans les écoles. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des exercices militaires dans le cadre de l'école publique avec tir à balles réelles pour les plus de 14 ans. Vrai ou faux ?
Enfin, ça serait scandaleux, franchement.
On picolait et on apprenait à tirer à balles réelles lors d'exercices militaires.
Non, parce qu'on ferait mention dans les livres d'accidents. Forcément, comme il y a autant d'accidents de chasse aujourd'hui, vous voyez. Non, je dirais non. Mon intuition, c'est non. C'est pas possible.
Vous avez... Perdu. perdu.
Ah, l'école de la Troisième République. Quelle belle époque. De 1882 à 1892, pendant 10 ans, on a eu le droit au bataillon scolaire. En 1880, une loi est votée pour rendre obligatoire les exercices militaires dans les écoles primaires. Tenez-vous bien, les écoles primaires. En 1881, je cite Jules Ferry, « Nous voulons pour l'école des fusils, car ce petit enfant, c'est le citoyen de l'avenir, et dans tout citoyen, il doit y avoir un soldat toujours prêt !» Sacré Jules. Finalement, le milieu catholique dénoncera les bataillons scolaires car souvent ils retenaient les enfants également le dimanche, ce qui rendait plus difficile leur instruction religieuse. C'est pour ça que ça a été abandonné, pas pour des raisons de sécurité, Stéphane.
Incroyable.
Mais oui, mais on voit qu'on est en plein dans les années qui suivent la perte de l'Alsace-Lorraine. Il y a un sentiment de revanche tel qu'on commence à embrigader nos enfants. Oui, c'est intéressant. Oui. Mais le tir à balles réelles, en revanche, là...
Oui, c'était... on aurait pu avoir un fusil sans balles réelles, vous voyez.
C'est vrai. Pour leur apprendre à tirer. À viser, c'est difficile d'avoir des fausses balles. Il faut bien des vraies balles pour apprendre à viser. Si on tire à blanc, c'est du cinéma, Stéphane. Ça n'a pas de sens. Imaginez, Clémentine, le petit Stéphane
avec ses
petits doigts tenant une carabine.
Pour tous les films que je tourne, je
vous avez tiré ?
Bien sûr.
À blanc, évidemment.
Oui. Et pourtant, ça fait... Ça
vous a fait peur ?
Non, ça n'a pas peur.
Ah, ça vous a, ça vous a plu.
Oui, j'aime beaucoup tirer.
Non, je... Oui. Voilà. J'ai eu la phrase que je voulais, on peut passer à autre chose.
Je sais, il attendait cette phrase.
Vous avez vu comme je vous emmène discrètement vers la phrase.
Je vous donne ce que vous attendez, comme ça j'ai la paix.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Je voulais rendre hommage aujourd'hui, Clémentine, à votre compte Instagram et saluer vos 330 abonnés. Ma question est la suivante. Qui, justement, a le plus d'abonnés ? Le compte Instagram de Stéphane Bern ou celui d'une autre star de l'histoire, Laurent Deutsch ? Pour les deux, j'ai choisi les comptes officiels. Évidemment, pas les comptes de fans.
Oh là là.
Qui a le plus d'abonnés sur Instagram ? Ne vous trompez pas, hein ?
Bah, moi, je
Stéphane, vérifie.
J'espère et je dirais avec beaucoup de flagornerie que, bien évidemment, c'est certainement Stéphane.
Vous avez gagné !
De toutes les questions historiques que nous avons eues dans ce quiz, c'est une des plus importantes. Effectivement, Stéphane Bern compte 99 000 abonnés.
On est à 100.
100 ! La barre des 100 vient d'être franchie.
Oui.
Bravo.
Regardez.
Montrez-moi, Stéphane, je veux la preuve. Hein, parce que Laurent Deutsch, seulement 13 000.
En haut, 100.
Oh, 100 cas, ce qui veut dire effectivement 100 000 personnes. Je recommande la photo sur votre compte, Stéphane, où vous êtes en chemisette de commandant de bord, puisque vous jouez un commandant de bord d'un escadron de drones pour un futur téléfilm sur France 3.
Oui.
C'est confondant de vérité. Question numéro 5. Question numéro 5. Attention, c'est la question de rapidité. Stéphane, vous n'avez pas le droit à votre téléphone pour cette question, car on ne sait pas si vous admirez sur Instagram ou si vous trouvez la réponse à la question. Trois propositions. Le rouble de Sestroriest était une pièce de monnaie de l'Empire russe émise entre 1770 et 1771 sous Catherine II. Quelle était sa caractéristique ? Trois propositions. Elle était en palladium. La pièce pesait plus d'un kilo. La pièce suivait le cours de la valeur de la vodka.
Moi, j'ai trois.
Trois.
La pièce suivait le cours de la valeur de la vodka. Ce n'est pas la bonne réponse. Je vous laisse l'opportunité de donner une autre réponse. C'est donc Clémentine Portier-Catada qui remporte par défaut le quiz puisque Stéphane Bern a réussi l'exploit de donner, alors qu'il a une deuxième chance, deux fois la mauvaise réponse. Alors qu'est-ce que le palladium, Stéphane ?
Aucune idée.
C'est un matériau qui coûte encore plus cher que l'or. Donc une pièce en palladium, vous n'êtes pas prêt d'en voir circuler.
Mais comment tu peux avoir une pièce d'un kilo ?
La pièce pesait 1 kilo et 41 grammes. Catherine II avait fait émettre des roubles d'assignation, la première forme de papier monnaie, si vous voulez, en Russie.
Ouais.
On avait le droit d'en réclamer la contrepartie en cuivre. Pour dissuader les Russes de le faire, on a fait cette pièce extrêmement encombrante.
Ah,
ils sont malins, les Russes.
Bah, c'est
ils
amusant, je ne le savais pas. Et bien voilà.
Alors, voilà, vous acceptez votre défaite pour une fois.
Tous les deux perdus.
Non, c'est Clémentine qui a gagné.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
N'ayons pas peur de le dire, vous êtes au cœur des deux heures d'histoire les plus déjantées de la bande FM, en compagnie du plus déjanté des présentateurs. Stéphane, cet après-midi, nous rendons hommage à ceux qui ont voulu...
Aller plus haut,
qui y sont allés, mais qui sont tombés comme la première crêpe de la Chambleur.
Oui, Mathieu, l'image est belle, elle est belle mais cruelle.
Oui.
Après, Charles Ningesser, l'aviateur vedette des années folles, dont la fin tragique a été racontée tout à l'heure.
Ça vous émeut visiblement oui. particulièrement.
Je, non, ce qui m'émeut encore plus,
ou alors vous avez le hockey, je ne sais pas. Mais en
non,
tout cas...
Non, des, on voit.
Ça arrive au meilleur.
Je vais vous parler d'un autre... C'est, en fait, à votre contact, on finit par dire n'importe quoi. Vous avez remarqué.
C'est fascinant.
Mais c'est fascinant.
C'est une sorte de...
En fait,
je suis plus contagieux que le variant anglais.
Sur la connerie. Vous tirez tout vers le bas. Alors bon, je vais vous parler d'un autre personnage qui a atteint les sommets de sa carrière de boxeur. C'est la légende Marcel Cerdan, mais bon, qui malheureusement n'a pas été satisfait du service d'Air France ce jour-là. Quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez oui. l'histoire d'un groupe oui. d'amis fauchés en plein vol aussi, alors qu'ils chantaient sur l'aile de l'avion.
Oui, ils auraient dû y penser, c'est dangereux de chanter sur l'aile d'un avion. Je vous parle du groupe Ozone. Trois artistes qui, heureusement, je vous rassure, ont été rapidement fauchés en plein vol aussi. Nos chroniqueurs sont là, Stéphane. Regardez-les comme ils sont beaux. Oh là là, ils ont le poil dru. Ils sont magnifiques. David Castello-Lopez, vous sortez du coiffeur, David.
Ouais. On dit de chez le coiffeur. Hein.
Oui, oui, voilà, vous sortez de chez le coiffeur, voilà. Mais je dis ce que je veux déjà, Olivier Poul. Vous savez, en Suisse, on dit du coiffeur. Ouais. C'est comme ça.
Je salue d'ailleurs Daniel de chez Jean-Claude Biguine qui me coiffe à chaque fois. Il est vraiment c'est très très.
Non, bien. On peut pas dire qu'il vous coiffe. On peut tout dire comme ça.
Est-ce que vraiment, sur le point du capillaire, vous pouvez être prescripteur et donner des leçons, Stéphane? Je suis pas sûr de ça. On va parler de l'hymne portugais.
Oui.
Ça donne quoi? Chantez-le.
Mais non, je vais le chanter tout à l'heure. Ah vous allez voir, il sera un petit peu long. Il faudra le supporter, mais ça va être bien après.
Mais j'ai hâte. Ouais. Olivier Pouls, moi je mangerais bien une petite tapenade.
Oui, mais avec.
Sur un blini? Est-ce que la tapenade irait avec le blini?
Ah bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Bah oui, bien sûr, y a pas de... Moi, je les préfère sur des croûtons de pain croustillants.
Oui, c'est pas mal.
Pour
pas
ceux
mal
qui ont aussi. Encore des dents, c'est bien.
Je vous donnerai la vraie recette authentique de la première tapenade et qui n'était pas servie à l'époque sur des croûtons de pain. Je vous dirai comment on l'a préparée.
Et il est servi sur quoi?
Je vous le dirai tout à l'heure.
C'est le suspense. Beaucoup de suspense aussi autour de la chronique de Stéphane. Le mot de la fin aujourd'hui.
Se monter le bourrichon. Vous savez, il se monte le bourrichon tout seul. D'où ça vient?
T'entends souvent ça, les jeunes dire ça.
Non, je ne sais pas, mais vous savez. On n'est pas écouté que par les jeunes.
C'est vrai.
Et même. Et quand bien même.
Le bourrichon, le bourriquet, le bourricot, l'âne.
Non.
Non, c'est ça.
Pensez à la, par exemple, quand on aime les huîtres, on aime quoi?
Le vin blanc.
La bourriche d'huîtres.
Le
vin blanc, il est désespérant. Je suis désespéré.
Vous êtes désespérant.
Oui. Et tout de suite, les amis, partons à la rencontre de Marcel Cerdan, boxeur légendaire des années 40, victime d'un des crashs aériens qui a fait couler le plus d'encre, car figurez-vous qu'il n'aurait jamais dû monter dans cet avion, le pauvre Marcel. Mais non.
Europe 1. 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Lorsque le 29 octobre 1949, le quotidien L'Équipe titre « Volant vers la victoire, il rencontre la mort », cela témoigne que Marcel Cerdan ne fut pas seulement fauché en plein vol, mais en pleine gloire. Le tragique accident d'avion qui participe de sa légende et la célèbre idylle qu'il vécut avec la non moins célèbre Édith Piaf ne sont certainement pas les seules raisons de l'incroyable popularité et longévité du mythe Marcel Cerdan. Sa courte vie se mêle à l'histoire de France. Elle fait le lien entre une troisième république vieillissante et une après-guerre en route vers la modernité. Cerdan réunit Paris et la France d'outre-mer, comme on le dit à l'époque, celle de l'Algérie où il naît en 1916 et celle du Maroc où il grandit dans les quartiers populaires de Casablanca. Il incarne le mérite et l'ascension sociale du pied noir, parti de rien, qui finira couvert de gloire sur les deux continents. Poussé par son père, le petit Marcelin, son vrai prénom à l'état civil, boxe dès l'enfance comme toute la fratrie. Pourtant, se battre, Marcel n'aime pas vraiment ça. Il préfère traîner avec les copains, jouer au foot dans les rues du quartier, car on le sait moins, mais Marcel Cerdan était un sportif entier et ses premières amours, c'est vers le foot qu'il les a tournées. Le foot qu'il pratiquera toute sa vie, jusque dans l'équipe nationale du Maroc.
Mais non.
Brillant au combat, encouragé, forcé, disent certains, par son père, Marcel ne cesse de vaincre. Après s'être fait un petit nom en Afrique du Nord, c'est à Paris qu'il monte sur les rings à partir de 1937 et il y devient célèbre. La guerre ralentit un temps son inévitable ascension vers les sommets qu'il finira par atteindre, mais paradoxalement, elle contribue à créer sa légende. En septembre 1942, dans l'enceinte du tristement célèbre Veldiv, qui, au-delà d'avoir été le théâtre quelques semaines auparavant seulement de la rafle de plus de 13 000 juifs, est avant tout une enceinte sportive. Cerdan affronte le tenant du titre européen José Ferrer. L'Espagnol, croix gammée, frappé sur son peignoir, monte sur le ring en adressant un salut fasciste. Marcel le terrasse, bien sûr. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, à peine plus d'une minute. La foule exulte et se prend à chanter la Marseillaise, fait inenvisageable dans ce Paris sous occupation nazie. Cerdan refuse de faire le salut nazi tout autant qu'il refuse les agapes prévues par les autorités après le match. C'est surtout cela, Marcel Cerdan. Cette droiture qui participe à faire de lui l'idole de la France blessée d'après-guerre. Il est la force et la loyauté, celui qui permet d'oublier les humiliations de l'occupation et les turpitudes de la collaboration. Sa célébrité est un exutoire, l'incarnation d'un honneur retrouvé. Et pour être célèbre, il l'est. Songez, Mathieu, que lorsqu'en 1948, Marcel Cerdan remporte le titre de champion du monde contre Tony Zale aux États-Unis, en France, les ventes d'appareils de radio augmentent avant le jour J. Et cette nuit-là, Électricité de France enregistre un pic de consommation jamais vu auparavant, comme si chaque Français était collé derrière son poste.
Comme les soirs de Secret d'Histoire, EDF communique sur ces chiffres. Ça monte en flèche, Secret d'Histoire.
Ne me comparez pas, s'il vous plaît, à ce géant.
Je vous souhaite pas la même fin.
À cette époque, le sport est devenu l'affaire des masses. Ce qui n'était encore qu'activité de bourgeois oisifs au début du siècle devient, dans les années 20 et plus encore dans les années 30, la chose du peuple. L'émancipation prolétarienne passe aussi par le sport et Léo Lagrange, fameux secrétaire d'État du Front Populaire, développe les stades, les piscines, les gymnases à travers le pays. Le sport est pratiqué par tous et devient un spectacle qui attire les foules. Derrière le cyclisme et le football, eh bien, la boxe connaît un immense engouement. Cerdan est adulé car il est le meilleur. D'une rapidité époustouflante, enchaînant les uppercuts avec fougue, faisant vibrer les salles, il prend cette célébrité et la ferveur qui l'entoure pour ce qu'elles sont, une faveur. Sans vanité, il veut honorer son public et le pays qu'il représente. Ce qui aide aussi à son succès, c'est sa gentillesse. Derrière son terrorisant surnom de bombardier marocain, il est un homme doux et aimable, même avec ses adversaires. En témoigne son combat en 1938 contre Umri, qui a envoyé au tapis en 12 secondes, reste inanimé, groggy et quasi comateux pendant des heures. Marcel, inquiet, se tiendra à son chevet toute une partie de la nuit. Gentil mais quasi imbattable. 106 victoires pour seulement 4 défaites au cours de sa vie. Champion de France pour la première fois en 1938, champion d'Europe en 39, 42, 47, puis 48, et le premier non-américain à remporter la même année le titre de champion du monde des poids moyens. Cette Amérique où il triomphe et dont il rentrera accueilli en héros national est aussi le lieu où naît son plus bel amour. Et le mythe Cerdan s'est également construit là-dessus. Il a déjà brièvement rencontré Edith Piaf dans un cabaret parisien en 1946, mais c'est en 1948, après un concert à Broadway, qu'ils deviennent amants et amoureux fous, étreints d'une passion irraisonnée. Cet amour fulgurant est d'abord vécu discrètement, car monsieur est marié, père de famille, famille qu'il aime et essaye malgré tout de préserver. Pourtant, rapidement, tout le monde est au courant, la France entière même. Edith et Marcel font rêver, font jazzer aussi. Hein.
Jazzer, oui. Jazzer ou jazzer, bah, qu'est-ce que d'après vous?
À vous de choisir, ils font jazzer et jazzer, parce que j'aime bien cette idée. On dit qu'elle l'envahit, le déconcentre, mais il s'aime, que voulez-vous? C'est ça l'amour, Mathieu.
On n'arrête pas l'amour, Stéphane.
Or, il faut souvent du drame pour parfaire un mythe, et le drame advient. En cette fin d'année 1949, Marcel Cerdan est prêt à reconquérir le titre mondial en combattant Jake LaMotta au Madison Square Garden. Mais le match n'aura jamais lieu. Cerdan a prévu de se rendre à New York en bateau, mais le 28 octobre 1949, c'est Edith Piaf qui le convainc de prendre l'avion. Elle veut le retrouver au plus vite. Ils trépignent de passer du temps ensemble. Marcel n'atteindra pas New York et elle ne se remettra jamais, dit-on, de cette culpabilité. L'avion dans lequel le champion a pris place s'écrase contre le Pico Redonda sur l'archipel des Açores. Aucun survivant. Marcel Cerdan sera identifié grâce aux deux montres qu'il portait. L'une offerte par Edith, réglée à l'heure de New York, l'autre à l'heure de la France. Le soir même, la chanteuse trouve le courage de se produire comme prévu sur scène. Elle y interprète l'hymne à l'amour, chanson qu'elle avait écrite pour lui.
Si un jour... arrache à moi si tu meurs.
sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, et moi je mourrai aussi.
Meurtri, Piaf s'effondre avant la fin du spectacle. En France et au Maroc, c'est un drame qui se vit aussi. 70 000 personnes suivent le cercueil à Casablanca avant que des centaines et des centaines d'articles, de livres et de légendes ne continuent de forger le mythe Marcel Cerdan.
Europe 1, historiquement vôtre.
Un film, il en a fait un aussi, peut-être le meilleur qui nous a été donné de voir sur Le Champion. Pour continuer à parler de Marcel Cerdan, nous sommes avec le documentariste Jean-Christophe Rosé. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Oui, Jean-Christophe Rosé, vous êtes réalisateur, faut-il le rappeler. Vous avez réalisé plusieurs films sur la boxe et vous êtes l'auteur de ce documentaire, Marcel Cerdan, une légende française. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à lui?
Bien d'abord, il ne faut pas oublier que la boxe, entre les deux guerres et... après la Deuxième Guerre mondiale, était le sport le plus populaire de la planète, avant le football. Et donc, les champions du monde de boxe étaient les gens les plus connus de la Terre. Donc, cet univers de la boxe, moi qui me suis toujours intéressé au sport, m'a toujours fasciné. Et il se trouve que en France... de champion du monde de boxe, il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début du siècle. Il y a eu un poids moyen qui s'appelait Marcel Thiel. Il y a eu Carpentier qui a fait deux matchs et qui est connu dans le siècle uniquement à cause de ces deux matchs. Et donc, le fait que Marcel Cerdan soit un immense boxeur et qu'il a eu en plus ce destin, avec tout naturellement, je m'y suis intéressé.
Mais il était une star avant de mourir. On
peut imaginer qu'il est devenu une star parce qu'il a eu ce destin tragique. Mais en fait, c'était déjà une célébrité mondiale.
Il devient vraiment une star quand il conquiert le titre de champion du monde en Amérique, royaume de la boxe. Et là, il devient quelqu'un d'universellement connu. Et à partir de là, les drames s'enchaînent. Sa défaite lors de son championnat du monde contre la Motta, qui est une tragédie à elle toute seule, et puis sa mort après son idylle avec Piaf, qui est aussi un espèce de roman hors norme. Alors est-ce que c'est un roman hors norme dans la réalité ou à travers ce qu'en ont dessiné les médias? Ça, c'est encore autre chose.
Bah, quoique les faits presque se suffisent. Elle écrit l'hymne à l'amour pour lui. Dans la chanson, il y a « Si tu meurs, maintenant il meurt ». Enfin, c'est elle qui lui dit. C'est la légende quand on dit que c'est Piaf qui lui dit de prendre l'avion et pas le bateau.
Effectivement, il devait prendre le bateau et comme elle avait envie de le voir, elle l'a fait venir plus vite. Il a pris l'avion et effectivement, c'est ce qu'il est advenu. Et puis, il est mort à 33 ans, quoi, à l'âge du Christ. Donc, tout ça fait que ça participe de sa légende, effectivement. Mais ça a été un immense boxeur, surtout.
Et ce qui est incroyable, c'est même quand on raconte sa vie, c'est la gentillesse du personnage, c'est-à-dire ses qualités intrinsèques, le fait aussi que il a, c'est vrai, 106 victoires sur 110 combats, enfin tout est incroyable chez lui.
Oui, il y a ce contraste, c'est symbolisé par cette espèce de contraste entre sa voix de fausset, de petit garçon innocent. Et cette espèce de foudre qu'il a dans les mains et qui abat un homme comme un arbre.
Et surtout, il a cette chose qui, à mon sens, je suis pas un spécialiste de la boxe moderne, mais j'ai l'impression que c'est un peu perdu, surtout quand on voit l'avant-match des combattants qui n'arrêtent pas de s'invectiver et de frimer. Il a l'humilité, non? Une humilité qui aujourd'hui ne se retrouve plus trop dans le monde de la boxe, non?
Bien aujourd'hui, il y a toute une mise en scène avant-match où les deux gladiateurs se fixent dans les yeux pour faire monter Disons qu'à l'époque, c'était un peu moins le cas. Mais au-delà de ça, effectivement, c'était quelqu'un de très correct et qui combattait, effectivement. Il faisait son métier. Mais une fois qu'il avait fait son métier, il n'allait pas au-delà, quoi.
Votre thèse dans le film, c'est que c'était un homme apolitique. Et c'est vrai que certains ont trouvé qu'il avait continué à combattre pendant la guerre et notamment à disputer des matchs de boxe pendant l'occupation.
Oui, mais je vois pas comment on peut lui reprocher ça parce que comme je viens de vous le dire, c'était un professionnel, il faisait son boulot. c'était pas un intellectuel, il n'était pas impliqué politiquement, je pense pas qu'il analysait tout ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Quand on lui demandait de combattre pour gagner sa vie, il le faisait, mais il n'allait pas au-delà, il ne participait pas de la propagande. Oui.
Son fils aurait dit « Mon père fuyait la politique, il n'a pas bu le champagne avec les fascistes ».
C'est vrai, après le match contre José Ferrer, quand il est devenu champion d'Europe, il n'a pas participé aux agates d'après-match. Vichy a fait un film avec lui, autour de lui, pour le donner en exemple à la jeunesse du moment, donner l'exemple de ce sportif et tout. Il a fait ce film parce que on lui a demandé de le faire sans avoir une quelconque mentalité de militant. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas du tout lui reprocher. Mmh. Il a été un peu manipulé à ce moment-là. Quoi.
Est-ce que son succès sportif a rejailli sur la France après-guerre ? Est-ce que ça a permis de redorer notre blason ?
C'est un des éléments de sa gloire. C'est-à-dire la France qui s'était conduite de façon, neutre et pas totalement digne dans cette période... Effectivement, au sortir de la guerre, alors que le pays était à genoux, qui baignait dans une grande pauvreté, tout d'un coup, Cerdan part en Amérique, un petit Français qui s'empare du titre sportif le plus prestigieux de la Terre. Donc effectivement, ça a été une espèce de symbole de revanche et de renaissance extrême.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Christophe Rosier d'être venu nous en parler. Je rappelle le titre de votre documentaire, Marcel Cerdan, une légende française.
Merci.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, après l'aviateur Charles Ningesser et le boxeur Marcel Cerdan, on continue d'évoquer, Mathieu, avec vous, des personnages de l'histoire qui ont malheureusement été fauchés en plein vol. Les chanteurs du groupe Ozone.
Oui, alors chanteurs et malheureusement sont peut-être deux termes en trop dans votre lancement, mais oui, depuis 2018 à peu près, plus de nouvelles des trois Roumains les plus célèbres du monde après Ceaușescu, Nadia Comăneci et Dracula, qui en plus, c'est une hérésie, puisqu'en plus vous allez voir, ils sont moldaves. Alors d'emblée, je rassure les associations, cette chronique sera garantie sans blague sur les Roumains et les Moldaves et surtout sans imitation d'accent. On devient très sérieux de ce côté-là, même Olivier Pouls, dit le Michel Leb de Namur, réussit désormais à s'auto-censurer quand il qu'il dérape.
Il a l'air parfois un peu fatigué et puis il parle avec un accent. Ah non, on peut pas faire ça.
Mais on peut plus faire ça. Bravo Olivier. J'essaierai de faire preuve du même tact dans cette chronique. Si nous sommes réunis cet après-midi, c'est donc pour rendre un ultime hommage à cette météorite musicale que fut le groupe Ozone. Ici, un remix piano très émouvant de leur seul et unique tube, mais quel tube ! Combien de fois, Stéphane, avez-vous fini le nez dans la schnouf, votre carré Hermès trempant dans une flaque de kétamine sur le dance floor du Bergheim à Berlin au son de...
Là, c'est...
Oh yeah. Cette chanson qu'on fredonnait tous sans savoir qu'elle s'appelait Dragostea Dinteis, qui de toute façon vous aurait pas beaucoup avancé vu que vous allez voir, même ceux qui l'ont composé n'ont jamais vraiment compris ce qu'ils avaient voulu dire par là. Alors aujourd'hui, cet électropop de prise unique peut choquer les oreilles, ça peut paraître lointain, voire, j'ose le mot, ringard. Mais à l'époque, dans les cours d'école, si tu disais que tu connaissais pas Ozone, on te tombait dessus.
Ah non, arrête. Mais t'es pas cool.
Oui, les enfants sont cruels, surtout les enfants luxembourgeois. Retour donc en 1998. Dan Balan et Petru Jelivoshi de Moldave fondent le duo Ozone. Hélas, leur premier album fait un four. Jelivoshi jette l'éponge et Balan se met en quête d'un nouveau chanteur. Il trouve la pépite rare, du moins à son avis, en la personne d'Arseni Todiras, 17 ans, et le groupe devient bientôt un trio avec l'arrivée de Radu Sarbu. Ozone tente d'abord sa chance à Bucarest où leur premier album Number One, comme son nom ne l'indique pas, ne marche pas très fort, pas aussi fort en tout cas que la chemise motif ours polaire qui s'arrache alors en duty free à l'aéroport. C'est en 2003, vous nous la ressortirez, c'était un one shot, vous la mettrez une fois, vous la ressortirez.
Je peux la reporter, elle est très belle. On ne jette pas les vêtements après leur première utilisation.
Je connais cette théorie. Oui. C'est en 2003 que le trio est touché par la grâce. Littéraire, d'abord, il couche sur le papier ces quelques phrases sans réel sens en roumain qui peuvent être traduites par « Tu veux partir, mais tu ne veux pas m'emmener avec toi. Ton visage et l'amour des tilleuls me rappellent tes yeux. » Le titre « Dragostea Dintei » se traduit effectivement par « L'amour du tilleul ». Une partie du refrain est par ailleurs inspirée de la sonate pour piano 17 de Mozart. Et c'est vrai que lorsqu'on met les deux bout à bout... « Mozart aux zones est flagrante, comme un pont musical dressé par-dessus les siècles pour connecter deux génies. On a contacté Eve Ruggieri pour plus d'infos, mais elle n'a pas donné suite. En Roumanie, c'est un triomphe qui s'étend rapidement à d'autres pays. Comme d'habitude, en cas d'épidémie, c'est l'Italie qui succombe en premier. Les Italiens se révélant très sensibles à cette soupe, ou plutôt ce borsch électropop, porte-étendard d'un courant musical qu'on appellera l'Eurodance. Le phénomène se répand ensuite à toute l'Europe, soulignant d'ailleurs une fois de plus les faiblesses réglementaires de l'Union européenne. On déplore souvent l'absence d'harmonisation fiscale qui débouche sur le dumping social. Que dire de l'absence plus douloureuse encore pour nos oreilles d'harmonisation du bon goût qui débouche sur Ozone, qui ajoute au problème du plombier polonais celui du boys band moldave. Résultat de cette concurrence déloyale qui finira de tuer nos pauvres To Be Free, 8 millions de singles vendus et un clip qui entre rapidement au panthéon du n'importe quoi filmé. On y retrouve nos amis moldaves en pantalon blanc, poutre apparente, sur les ailes d'un avion dans une ambiance très 80s, alternant avec des séquences en dessin animé, une sorte de raid sous acide, entrecoupé d'apparitions d'un tableau de Picasso dont personne n'a jamais compris ce qu'il foutait là. Mais le pire est à venir, car oui Stéphane, il y a pire non. que Numa Numaye. Il y a la reprise de Numa Numaye par Massimo Gardia. Souvenez-vous, les amis, souvenez-vous, n'ayez pas peur, nous sommes à l'été 2004, le célèbre jet-setter gigolo vient de sortir de l'émission littéraire La Ferme Célébrité, où il a passé un mois à tenter de survivre entre les fulgurances d'Evangélie et les flatulences de Daniel Gilbert. Ou était-ce l'inverse, je ne sais plus. Il nous offre l'inoubliable Masecchi. Je pense que certains à l'époque ont osé le taxer d'opportunisme. Un gigolo jet-setter qui fait la ferme célébrité, opportuniste. Décidément, dans ce pays, on ne supporte pas le talent. Voilà le problème, Stéphane. Alors qu'aux États-Unis, on sait le reconnaître, ce talent, lorsqu'on l'a en face de soi. La preuve, le blogueur obèse Gary Brolsma, qui aura l'idée brillante de se filmer à la webcam en train de danser sur Numa Numaye, créera le buzz, une vidéo qui compte 700 millions de vues. 700 millions de vues. Le concert de Cologne de Keith Jarrett lui totalise seulement 560 000 vues, ce qui dit beaucoup de la nature humaine et personnellement m'incite à relativiser l'urgence qu'il y aurait à vouloir impérativement la sauver tous azimuts à coup de reconfinement. Mais bon, je ne perds pas tout à fait espoir en l'humanité puisqu'en 2005, la planète se lasse enfin de Numa Numaye. Pour la triplette moldave, c'est le crash. Le groupe se sépare pour raisons personnelles. Visiblement, Dan ne supportait plus Radu.
D'ailleurs dans le bide, mais bon, arrête, l'arbre, c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. Et puis t'es cocu, oui. Alors, tu t'en demandes.
Radu était-il vraiment cocu ou bien le groupe était-il tout simplement arrivé au bout de ses capacités créatives? Leur chemin, en tout cas, se sépare. Arseni représentera la Moldavie à l'Eurovision en 2006. Chez nous en France cette année-là, Pascal Sevran avait choisi Virginie Pouchin. Devant sa télé, comme la France entière, Stéphane Bern soupirait.
Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir?
Ben 22e sur 24, comme d'hab. Battu par Arseni, l'ancien choriste du groupe Ozone, c'est moche. Mais pas autant que l'ultime tentative de Dan Balan pour revenir dans la course. Nous sommes en 2018 et Dan décide d'effectuer un comeback. Avec un nouveau titre? Non, mollo Stéphane. 14 ans seulement se sont écoulés depuis Numa Numaye, il n'a pas eu le temps d'écrire une autre chanson. Alors il a cette idée magique, remixer Numa Numaye en frottant son tube Europop aux envoûtants rythmes africains. Et on dira ce qu'on voudra, mais la rencontre de l'électropop roumano-moldave et des percussions africaines, on confine au sublime.
Oh non, c'est horrible.
Non Stéphane, on s'était promis de ne pas juger les fans d'Ozone. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut, mais... Franchement, que diraient les gens s'ils entendaient ce que vous dites quand vous croyez que le micro est fermé au sujet de votre goût pour les supplices médiévaux?
Est-ce que Jacques Clément, il a été écartelé? La roue, c'était pas mal aussi. J'aurais adoré faire subir ça aux gens.
Justement, imaginez maintenant faire subir la roue à quelqu'un en l'obligeant en même temps à écouter Ozone.
Aïe.
Oh. Vivement la réouverture du Bergheim.
Ah.
En plus, on me dit que le cours de la kétamine a chuté.
Merci Mathieu, c'est 99% vrai, il n'y a donc 1% de faux code.
Oui, ça c'est votre goût pour la kétamine, on sait bien que ce n'est pas votre drogue de prédilection.
Mais ce qui est dingue, c'est que tout le monde bouge la tête en entendant
ça.
Mais
c'est un tube,
on ne peut pas s'en empêcher.
C'est comme la Macarena, vous voyez, le commissariat l'autre jour.
Alors non, j'aimerais qu'on en parle sérieusement deux minutes, je ne comprends pas le succès de ce truc-là. Oui, on l'a dans la tête, le petit bonhomme en mousse, mais à aucun moment tu te dis c'est bien.
Mais là où je suis déçu... C'est moi, je croyais qu'ils étaient morts en plein vol.
Mais non, c'était juste que le clip, ils étaient sur l'aile d'un avion.
Oui,
Florence Foresti, on a fait tout un sketch avec l'avion Barbie.
Oui, vous mais souvenez? Là, j'aurais aimé qu'ils
crachent vraiment. Vous aurez aimé qu'ils décèdent. D'accord, non, Stéphane, ça, on ne peut pas souhaiter la mort. Même des gens qui n'ont pas de talent musical, on ne peut pas souhaiter leur décès, Stéphane, je vous le rappelle.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, fauchés en plein vol, pour évoquer dans cette ultime demi-heure d'Historiquement vôtre, notre vie quotidienne, ou plutôt les origines dans le passé de ce que quotidien.
Oui Stéphane, nos fins limiers de l'histoire sont là, à commencer par David Castello-Lopez, l'inspecteur gadget de l'histoire, qui nous régale de ses expériences ratées en studio, de la perche à selfie au cendrier en aluminium. Olivier Pouls aussi se tient prêt à envoyer la sauce.
Oh, c'est de la tapenade là.
Ah, la tapenade. Il est prêt à envoyer la tapenade.
Ah oui.
D'où ça vient?
Lors de l'apéro arrive.
Comment bien la préparer?
Mais surtout, arrêtez, ne vous montez pas le bourrichon, ça ne sert à rien.
C'est l'expression du jour, Stéphane.
Du jour, absolument.
Mais tout de suite, David Castello-Lopez est il est très excité aujourd'hui.
Oui, bah oui,
il est
très content. Il remonte à ses origines.
Ses propres origines.
Oui,
voilà. Et rémunéré par Europe 1. Oui. Il nous raconte ses origines, les origines de l'hymne du Portugal.
Tout à fait. Ouais. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'hymne portugais?
Ah, moi, je l'ai entendu souvent, oui.
Oui, mais est-ce que vous le connaissez?
Oui. Le connaître, c'est beaucoup dire.
Est-ce que vous pouvez le chanter?
Non. Voilà, d'ailleurs, alors, vaut mieux pas pour les auditeurs.
Je pense que, donc, dans un premier temps, je vais vous demander de l'écouter avec moi. Ça dure une cinquantaine de secondes, ce qui est beaucoup, hein, dans une émission au rythme effréné comme la nôtre.
Bien sûr. Surtout que vous êtes rémunéré à la seconde.
Ouais, 55 secondes, là, tu les comptes dans ta chronique.
Mais au moins, vous saurez de quoi je parle, et les auditeurs non portugais, qui sont quand même en majorité, sauront également de quoi je parle. Voici donc cet hymne qu'on appelle Portuguesa, ce qui veut dire la portugaise.
Nobre povo, nação valente e imortal.
C'est beau, hein?
Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal.
La splendeur du Portugal, probablement.
Entre as brumas da memória, oh pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória.
Aux armes
citoyens. Sobre terre et sobre mar.
Sur la terre comme sur la mer.
Aux armes.
Il est bien arrivé.
Aux armes. Pela patria.
Pour la patrie lutter
contre os canhões, marchar.
Vite, Cristiano Ronaldo.
Marcher contre les canons, voilà. Les canons.
Alors maintenant, petite traduction qu'on essaie
d'établir. C'est bon, on a un opéra de Verdi.
Mais c'est très très joli.
Très joli.
Héros de la mer, noble peuple, nation courageuse et immortelle, soulève aujourd'hui de nouveau la splendeur du Portugal. Entre les brumes de la mémoire, ô patrie, on entend la voix de tes illustres grands-parents qui te guidera jusqu'à la victoire.
Calmez-vous.
Aux armes sur la terre et sur la mer. Aux armes pour la patrie, lutter contre les canons, marcher. Donc vous voyez, c'est un hymne guerrier dont on a sacrément du mal à croire au passage qu'il n'a pas été largement influencé par la Marseillaise,
oui,
ne serait-ce qu'à cause du refrain, hein, aux armes, hein, ça sent un peu la pépon. Mais bon, il y a un truc vraiment assez fou dans les origines de cet hymne, et quelque chose qui, à mon sens, est assez typique du Portugal, et plus généralement, j'ai envie de dire, typique des nations secondaires qui rêveraient d'être des nations majeures. À la fin du 19e siècle, le Portugal, il avait encore un sacré empire colonial en Afrique, et les deux joyeux de cet empire, c'était le Mozambique, au sud-est de l'Afrique, et l'Angola au sud-ouest. Et à ce moment-là, le Portugal, il voulait un peu plus. Et en particulier, il voulait pouvoir occuper les territoires entre l'Angola et le Mozambique, de façon à avoir une grosse colonie qui aille d'un côté à l'autre de l'Afrique. Sauf que les Anglais, qui étaient aussi dans la région, ça les énervait un petit peu. Et en 1890, l'Angleterre a lancé un ultimatum au Portugal en disant ouais, en fait, si vous enlevez pas vos troupes là, des endroits là entre le Mozambique et l'Angola, eh ben on sera plus amis, vous, le Portugal et nous. Et les Portugais, ils ont fait quoi? Eh ben ils ont dit d'accord.
On a bombardé Lisbonne, hein, aussi. Ils ont bombardé le palais des nécessités.
Et on pouvait pas vraiment faire autrement, hein, parce que diplomatiquement, le Portugal face à l'Angleterre, je veux dire, c'est un peu comme si le département des Deux-Sèvres essayait de tenir tête aux États-Unis. Vous voyez, si les États-Unis disaient aux Deux-Sèvres, écoute, les Deux-Sèvres, maintenant t'arrêtes, les Deux-Sèvres, ils font d'accord,
listen, two
on arrête.
Sèvres.
Voilà. Et donc les Portugais, ils ont dit oui, la queue entre les jambes. Mais à Lisbonne, il y a des gens que ça a beaucoup énervé, des patriotes qui disaient quoi, on se met à genoux devant l'Angleterre, c'est quoi ces conneries? Et parmi les gens qui disaient ça, il y avait un musicien qui s'appelait Alfredo Keil, qui était portugais d'origine allemande, et un poète qui s'appelait Henrique Lopes de Mendonça.
Ah, Lopes, encore Lopes, un Lopes.
Comme moi, à peu près tout le monde s'appelle Lopes en Portugal. Donc voilà. Et ce sont eux qui ont écrit Portuguesa pour affirmer la fermeté imaginaire du Portugal face à l'ultimatum anglais. Fermeté qui n'a jamais existé que dans leur
que
rêve.
Que dans la chanson.
Voilà.
Que de la gueule, quoi.
Que de la gueule. Et un peu plus de 20 ans plus tard, après l'instauration de la République au Portugal, Portuguesa, c'est devenu l'hymne national portugais. Et maintenant qu'on sait ça, je trouve ça assez touchant de relire les paroles. Nation courageuse et immortelle soulève aujourd'hui de nouveau la splendeur du Portugal. Aux armes, mais aux armes de quoi? Vous allez faire quoi contre un pays 20 fois plus puissant que vous? Ça donne l'impression d'un enfant énervé qui tambourine sur les mollets d'un adulte, vous voyez? Alors quand même, je dois dire que moi, quand j'entends l'hymne portugais, j'ai du mal à pas pleurer un petit peu. Non seulement parce que ça soulève la petite poussière de fierté nationale qui est au fond de ma poitrine, mais aussi, dans ce cas-là, parce que je trouve que bah, c'est particulièrement touchant.
C'est très très touchant, puis voilà. C'était vos origines aussi, c'est une touche de l'éclat.
Vous savez que ça a été un drame, cet ultimatum, oui. 1890-91. Une génération s'est suicidée, ce qu'on appelait les vaincus de la vie, ou Juvenci dos da vida. Et il y avait des grands poètes, là, comme par exemple Essad Queiroz, qui est l'un des grands grands écrivains. C'est le Zola portugais, il a écrit Hachemayesh, qui est vraiment une œuvre qu'on trouve en français.
Hein. Vous avez une fascination pour le portugais.
Ah, mais moi, j'adore.
Mais que ne vendez-vous donc pas cette villa dispendieuse en Grèce pour investir vivre, oui. dans mais l'immobilier en Portugal?
N'en est-il pas question?
Est-ce que ça serait pas l'ordre du jour? Froide.
David, une petite question. Castelo Lopes, qu'est-ce que Castelo, c'est un château? Oui. Vous avez un château?
Non.
Mais il y a une origine, il y a quelqu'un qui a eu un château dans votre famille.
Alors non, vraiment, c'est un nom très répandu. Et même pour l'histoire, c'est un nom qui a été remasterisé par mon grand-père. Parce que, en fait, j'aurais dû m'appeler Lopes Inverno, mais il trouvait ça plus cool de Castelo Lopes. Il a pris un peu pioché dans les gens de sa famille. Ah, il s'est démerdé.
Les noms qu'il préférait.
Voilà, exactement. Il s'est démerdé pour s'appeler Castelo Lopes. Et c'est
tout
pour ça
pour qu'on bousille votre nom chaque jour à l'antenne.
Mais sa famille, ses enfants s'appelleront Château.
Château Lopes. Lui n'a pas le château, mais une gentilhommière en Bourgogne où il vous invite à une dégustation de vin le week-end prochain, je vous l'annonce, effectivement. Mais en attendant, dégustation de tapenade aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre. D'où vient la tapenade? Qui surtout l'a inventée?
Et comment la prépare-t-on?
16h-18h sur Europe 1. Historiquement Vôtre.
L'histoire, c'est évidemment des traités, des guerres. Ouais, vous dites oui avant que j'ai parlé. L'histoire, je dis l'histoire, vous dites déjà oui. Vous êtes tellement d'accord avec moi tout le temps, c'est beau, c'est une symbiose intellectuelle.
Incroyable.
J'allais dire, l'histoire, c'est des traités, c'est des guerres, mais c'est aussi l'apéro. Et là, vous dites encore plus oui, vous dites double.
Non, mais je voulais dire, je pensais que c'était de la nourriture. Ah, je ne sais pas que des traités, c'est de la bouffe.
C'est de la bouffe, et dans la bouffe, et notamment pour l'apéro, une bonne petite tapenade, Olivier.
Vous avez raison, parce qu'on en a parlé au début de la saison, l'apéro remonte à l'Antiquité. Hein, l'idée de se préparer les papilles pour le repas, et puis bon, maintenant c'est devenu autre chose de plus convivial. Et c'est vrai qu'une tapenade au milieu de la table pour l'apéro, c'est quand même vraiment sympa. Et là, je suis très content parce que pour une fois, et c'est assez rare dans cette chronique, je suis capable de vous dater précisément la création de la recette, et puis surtout même de mettre un nom en face du gars qui l'a inventé. Profitez-en les amis, parce que c'est pas tous les jours. Alors c'est Marseille, évidemment. C'est 1880 et c'est le chef Meignet dans son restaurant La Maison Dorée qui invente la tapenade. Alors il invente une tapenade dont je vais vous donner la recette authentique dans un instant. Et en réalité, il s'inspire évidemment de recettes qui existaient depuis longtemps. Depuis l'Antiquité d'ailleurs, on propose des préparations qui sont une espèce de pâte à base d'olives, ce qu'on appelle l'épithérium, et qui contenait des olives, du fenouil, des herbes, du vinaigre, de l'huile. On est un peu dans l'esprit d'une tapenade, mais il y a un produit qui rentre dans la tapenade que lui invente, qui change tout. Les capres.
Ah oui.
Pas de bonne tapenade sans capres.
Évidemment. Il n'y a pas que de l'huile,
il y a les capres. Ça, c'est très important. Et lui, à l'époque, il ne la sert pas à l'apéro sur des petits croutons de pain grillés, sympathiques avec un petit coup de rosé, mais il en garnit des œufs. Donc,
c'est très bon sur les œufs durs.
Voilà, des œufs durs. Et bonne idée. Mettez une tapenade par-dessus, ça vous fait une entrée vraiment délicieuse.
Alors, comment on l'a fait?
Alors, maintenant, la tapenade authentique. Alors, au passage, d'ailleurs, le mot tapenade vient de tapeneau, et le mot provençal tapeneau, ça désigne les capres. Donc, ça indique bien qu'il faut absolument mettre des capres dans la tapenade. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un temps pour temps d'olives noires et
c'est
de capres.
Temps pour temps,
100 grammes.
Autant,
la même quantité.
Et on prend des calamatas?
La calamata que vous connaissez bien, qui est une délicieuse huile.
Dès qu'il peut faire du olive grec,
vous pouvez.
Non, mais... c'est pas une personne, hein, c'est,
oui,
un,
bah d'accord,
c'est un lieu oui, en Grèce, enfin... le Kalamata.
Oui, je sais que c'est un lieu, Stéphane, oui. Je sais bien.
Non, peu... Name dropping, ça veut rien dire.
Bah, si, vous faites du name dropping de produits un petit peu élitistes qu'on trouve au bon marché, qu'à l'épicerie du bon marché.
Non, mais c'est une variété. Expliquez-lui que la Kalamata, on la trouve partout.
Alors, c'est une variété d'olives. On peut trouver, alors, c'est une variété d'olives qui marche très bien pour la tapenade.
Je vais tendre la main à mes oliviers.
Vous tendez la main à Olivier, il vous la donne ou vous devez l'arracher quand même?
Alors, attention, Kalamata, c'est une appellation. Donc c'est une variété d'olives qu'on trouve, mais pour avoir de l'authentique Kalamata, elle est produite en Grèce. Il n'y a pas de Kalamata.
C'est bien ce que j'explique à Stéphane, qui pense que
française.
Que ça
en Bourgogne encore.
En Chopi, non.
Non, non, mais prenez de la bonne olive noire du sud de la France, ça marche très bien. Donc des capres, des filets d'anchois, 50 grammes, et lui mettait également 50 grammes de thon.
Vous avez dit de l'anchois?
Oui, de l'anchois.
Et vous mettez de l'anchois dans la tapenade?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui,
oui.
Ah, je savais pas qu'il y en avait. Anchois,
donc c'est un mélange anchoyade et tapenade.
C'est la recette authentique, en tout cas. Lui rajoutait un trait de cognac, figurez-vous.
C'est toujours très bonne idée de rajouter un trait de cognac dans tout et n'importe quoi, de toute façon.
Et puis, l'huile d'olive. Oh, il y en a plein d'autres.
Moi, je fais les pages de pub.
Tu vois? Vous rajoutez de la pub dans l'émission.
La règle aussi, c'est de préparer la tapenade dans un mortier. Donc, on pile les olives, les capres, les anchois et le thon. Ensuite, on met tout ça dans un bol et avec un fouet, on va monter en rajoutant le cognac et l'huile d'olive. Mmh. Voilà, ça c'est l'authentique version. Je vous en préparerai, les amis.
Ah ben volontiers,
vous dégusterez
moi
ça.
Moi, je fais les croutons.
Alors maintenant, on peut y rajouter de l'ail, on peut faire de la tapenade verte avec d'autres herbes, etc. Mais ça, c'est la vraie tapenade authentique.
Originelle.
De 1880.
Merci Olivier. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Oui. Stéphane Bern, vous le retrouvez directement dans l'émission pour sa chronique Le mot de la fin. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane se montait le bourrichon.
Oui.
16h18 sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
L'histoire, c'est des traités, des guerres. C'est là, normalement, vous dites oui avant que je dise quoi que ce soit d'autre.
Oui, voilà. C'est vrai.
Ça me fait un lancement. Merci Stéphane. Oui, c'est vrai ce que je dis. Mais tout c'est aussi
vrai.
L'histoire des mots. L'histoire
des expressions. Des expressions courantes. Enfin, courantes.
marchantes.
Mathieu, je ne sais pas si vous êtes du genre à ruminer dans votre coin, à vous faire des films, mais il y a une expression qui résume assez bien cet état d'esprit. Se monter le bourrichon.
Oui, et ça, c'est quand on monte le bourrichon à quelqu'un, c'est quand on monte une personne contre une autre. C'est quand on se monte la tête, quoi.
Exactement. D'ailleurs, le bourrichon, c'est la tête.
Je croyais que c'était la bourriche d'huître.
Quand se monte le bourrichon, la cafetière ou la carafe, cela désigne toujours la tête. Le bourrichon, ça vient de la bourriche. Au XVIe siècle, c'est un panier plus long que large. D'ailleurs, on dit une bourriche d'huître, n'est-ce pas? Tressé de façon grossière, sans anse, servant au transport du gibier ou de la marée. Voilà ce que je vous dis sur les bourriches d'huître. En 1846, la bourriche devient en argot, à l'instar du caisson ou de la théière. Ça devient la tête. Du coup, quand on monte la tête à quelqu'un, on lui fait prendre de la hauteur, de la valeur. Par contre, la formule prend rapidement une tournure péjorative. On fait donner une valeur à quelque chose qu'elle n'a pas. Celui à qui on a monté le bourrichon ne va pas tarder à prendre ses vessies pour des lanternes. C'est Flaubert qui aimait utiliser l'expression « conscient qu'il fallait s'exalter soi-même ». Pour devenir romancier, il écrivait « Comme il faut se monter le bourrichon pour faire de la littérature et que bienheureux sont les épiciers ». Difficile, effectivement, de lui donner tort. Notez une expression que l'on utilise au Brésil pour dire la même chose. « Imprégnar alguém pelo ouvido », devenir enceinte par les oreilles. En effet, là, il est grand temps de dégonfler le bourrichon.
Eh bien, les amis, quand j'entends cette petite mélodie...
Ça veut dire que c'est fini.
Ça indique effectivement qu'Historiquement Vôtre se termine. Nous rendions aujourd'hui un vibrant hommage à ces personnages de l'histoire qui furent fauchés en plein vol. Stéphane, qui, de Marcel Cerdan, Charles Nungesser ou le groupe Ozone vous a le plus ému? J'ai déjà la réponse.
Oui, parce que vous avez senti les trémolos dans ma voix quand j'ai raconté Marcel Cerdan. Cette histoire, depuis gamin, j'avais vu le film Edith et Marcel, et j'ai jamais été capable de le revoir, tellement j'ai pleuré en voyant ce film.
C'est-à-dire que vous n'avez pas vu La Môme avec Marion Cotillard?
Si, j'ai vu La Môme aussi, j'ai très ému aussi. Et quand j'écoute l'hymne à l'amour, je pleure.
Demain, Stéphane, pour nos trois personnages et notre thématique, David, très enthousiaste, avait proposé...
Claude François, Tupac, Jean-Luc Mélenchon.
Mais comme on n'a pas compris le lien, on a plutôt opté pour ces personnages qui ont fait revivre Marie-Antoinette.
Oui, trois personnages qui, dans leurs écrits ou leurs films, ont redonné vie à Marie-Antoinette. Stéphane Zweig, Jacques Demy et Sofia Coppola. On en parle demain si vous voulez. Oui. Allez, bonne soirée à tous.
Et Stéphane Zweig, on peut faire 10 émissions sur lui. Ouais. Il a eu tellement de vie, il a écrit tellement de choses fascinantes.
Il a écrit Marie Stuart aussi.
Effectivement, excellent. On le réinvitera.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.